Le moment est bien choisi pour faire un bilan chez les Canadiens de Montréal. Benoît Brunet est avec nous. Salut, Benoît.
Salut, Jérémy.
Benoît, au 24 décembre 2017, ça c'est l'an passé, le Canadien de Montréal avait 16 victoires, 16 défaites, 4 défaites en prolongation, 36 points. Cette année, 24 décembre 2018, le Canadien a 19 victoires, 13 défaites, 5 défaites en prolongation, 43 points. On a l'impression, malgré le peu d'amélioration au point de vue des points, c'est 6 points de différence, on a l'impression que c'est deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année chez les Canadiens, selon toi?
Je pense que tout le monde a acheté la nouvelle attitude ou le nouveau plan de match qu'on a mis en place du côté du Canadien avec les changements qu'on a fait. Pour moi, c'est pas compliqué, c'est le jour et la nuit. Puis l'an passé, combien de fois le Canadien s'effondrait après s'être fait marquer un but, on en donnait un deuxième rapidement, on n'était plus dans le match, les gars compétitionnaient pas, tu voyais les épaules baissées au banc. Cette année, c'est tout le contraire. Peu importe la façon qu'ils jouent, parce qu'ils n'ont pas toujours bien joué, ils sont toujours dans le match. La majorité des matchs, ils ont été là. C'est ça qui est vraiment intéressant du côté du Canadien. C'est un club qui abandonne pas. C'est un club qui compétitionne, qui travaille, ce qu'on voyait pas l'an passé. Puis ça, c'était vraiment décevant. Tu sais, t'as beau, tu sais, des fois, pas bien jouer, perdre confiance. Il faut quand même que l'effort soit au rendez-vous. Puis ça, c'était pas là l'an passé. Cette année, la majorité des matchs que le Canadien a disputés depuis le début de la saison, le Canadien est là, ils sont intenses. S'ils sont pas bons en première, ils s'assurent d'être bons en deuxième ou en troisième. C'est ça la grosse différence. Oui, il y a eu des matchs, là, tu sais, Minnesota, le match contre les Bruins de Boston à la maison, ça a été difficile. Mais quand tu regardes l'ensemble de la saison jusqu'à présent, c'est vraiment incroyable. Écoute, je t'avais dit qu'on était pour être 19-13-5 là, avant Noël. Je t'aurais jamais cru en début de saison.
Non, et souviens-toi en plus des propos de Jeff Molson. Il a dit c'est inacceptable. Le statu quo est inacceptable. Bergevin a dit on a un problème d'attitude. Pacioretty parti, Galchenyuk parti. On rentre Domi, on rentre Tatar. Puis on a l'impression qu'il y a eu un coup de baguette magique sur ce club-là. Moi, je m'intrigue à savoir c'était quoi l'élément déclencheur de tout ça.
Ben, quand tu fais le ménage au niveau du vestiaire, je pense que déjà là, c'est un point très, très positif. Tu sais, moi, je nommerai pas de nom, Jérémy, mais j'ai parlé à plein de monde, à commencer au tournoi de golf du Canadien, là, des gens de l'organisation, tout le monde me dit la même chose. Il y a un vent de fraîcheur au niveau du vestiaire, les gars sont ici pour apprendre, pour travailler comparativement à ce qu'on a vécu l'an passé. Puis là, on n'a pas changé 90% du club, là. C'est plate pour les gars qui sont partis. Mais c'est ça, tu sais, Galchenyuk, on l'a vu contre le Canadien hier, ça a été un peu mieux, là, je pense qu'il a marqué hier. Mais, tu sais, Galchenyuk, je le regardais jouer, puis je me disais l'autre soir, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, c'est pas parce que tu connais un bon match, puis t'en as 9 ou 10 ordinaires, que tu joues bien, là. Fait que c'est ça. Puis Pacioretty, c'est des hauts et des bas depuis le début de la saison, avec des blessures. Tu sais, un match contre Jersey, on disait, ouais, il est blessé, ouais, il est peut-être pas blessé, ouais, il est blessé, est-ce qu'il est laissé de côté, tout ça, tu sais. Tu sais, ça ramène des choses. Hein. Des fois, ça prend pas grand-chose. Tu sais, tu changes l'attitude de deux gars qui viennent pour travailler, là. Domi et Tatar, je pense que c'est ça, là. Puis là, tout le monde est heureux. Puis là, tu commences le début de la saison, t'as un bon camp d'entraînement, t'as un bon début de saison, tu gagnes. Puis là, d'un coup, tu sais, la flamme, là, est là, elle est présente. Puis, écoute, quand ton entraîneur te vend un plan de match, si tu l'acceptes, ça va bien. Puis tout le monde le respecte la majorité du temps. Ben c'est ça la différence, c'est pas du chialage, à quelle heure qu'on mange, boss c'est trop de bonheur, on pratique trop tard, c'est ça qu'on entendait l'an passé. Là. Ouais. Moi, supposé que t'es leader.
Mais moi, Benoît, écoute, vraiment, moi, c'est une question personnellement là, que j'ai, qui m'obsède. Je me demande qui dans l'organisation a décidé de dire, regarde, cette année, là, chez les Canadiens, on va être un club run and gun. Run and gun, ça veut dire axé sur l'attaque, on va être beaucoup plus rapide en transition, ce qui n'était pas le cas les années passées. Je me demande qui est arrivé avec cette idée-là. Est-ce que tu penses que c'est Bergevin ou c'est Claude Julien qui a proposé ça?
C'est un peu tout le monde. Puis écoute, c'est pas compliqué, là, le modèle de la Ligue, là, tout le monde le suit. Tu te souviens les bonnes années des Kings de Los Angeles, il était gros, fort physiquement, il avait du talent, c'était un peu plus lent sur la glace, fait que tout le monde a essayé de se grossir. Là, Vegas arrive dans la Ligue l'an passé, il arrive avec des gars qu'on a laissé partir à gauche pas à droite, puis on a fait des transactions pour amener des joueurs, puis là, d'un coup, là, eux autres, ils patinent, ils jouent au hockey, puis avec une défensive sans nom, puis un bon gardien de but, c'est comme ça qu'on va jouer, puis on joue du hockey rapide, une relance rapide, puis là, tu te dis, hey, ça fonctionne, pourquoi ça fonctionnerait pas pour nous autres? Mais le Canadien avait déjà pas mal de joueurs de ce style-là, des joueurs rapides, des joueurs qui sont capables de compétitionner. Le problème, c'est en défensive. Tu sais, qu'une défensive sans nom, on fait quand même du bon travail. Puis moi, je pense qu'on s'est ajusté, que ce soit Marc, Jeff Molson, Claude Julien, lui, écoute, les gars se rencontrent, ils se parlent, ils se disent, écoute, bien, si on continue à jouer le style qu'on joue là, défensif, fermé, pas de relance, les gars sont pas en mouvement, on n'aura pas de succès en Ligue nationale. Puis après ça, ben tu changes ton approche. Puis moi, je pense que l'arrivée aussi de nouvel entraîneur. Si je regarde Richardson avec sa défensive, là, il fait quand même du bon travail. Là, c'est pas évident. Puis la même chose avec Ducharme. Il y a le jeu de puissance qui fait défaut, mais ça, écoute, ça peut se régler. Tu travailles là-dessus, puis tu amènes des nouvelles stratégies. Puis je pense que le Canadien est assez de talent pour bien performer davantage numérique. Mais c'est un mélange de tout. T'sais. Puis les gars qui ont quitté, là, le gars qui est le mieux placé ou les gars qui sont le mieux placés, c'est des gars dans le vestiaire, puis après ça, c'est des entraîneurs qui vont voir le DG. Le DG, tu sais, il a sa ligne de communication avec ses joueurs, mais Claude Julien doit dire, là, écoute bien, ces deux-là, faut que tu me sortes ça, on s'en va nulle part avec ces deux gars-là. Là.
Mmh. Regarde Domi, là, 14 buts, 21 passes, 35 points. Tatar, 12 buts, 14 passes, 26 points. Honnêtement, là, je me souviens, on était en onde quand c'est arrivé. Pas grand monde qui croyait que c'était une bonne transaction. Dans les deux cas, là, on croyait pas que c'était des bonnes transactions réalisées par Marc Bergevin, mais je pense qu'il avait raison.
Ben, écoute, celle de Patrick, moi, ça me... Tu sais, tu regardes ça, tu dis, Tatar, OK, de Détroit, ça va à Vegas, joue pas, quatrième trio, laissé de côté. Mais c'est un gars qui a prouvé qu'il était capable de marquer des buts. Moi, mon point d'interrogation était plus là. Dans le cas de Galchenyuk, moi, c'est clair, net et précis. Clair, net et précis. Tu gagneras jamais avec lui dans ta formation. Ça, l'Arizona va s'en rendre compte assez rapidement. Puis là, tu amènes un gars qui veut jouer... Puis, qui aime jouer dans un marché de hockey, mais il n'y a pas juste ça. Max a fait du ménage aussi autour de lui. Puis là, je parle pas à l'extérieur de la glace, dans le sens où c'est pas un sorteur, là, Max Domi, là. Mm-hmm. Comme n'importe qui, probablement, qui va prendre une petite bière de temps en temps, là. Mais il a fait du ménage, puis il se concentre à jouer au hockey. Moi, j'ai parlé avec son père, au début de la saison, puis il disait, ben là, il y avait un entraîneur pour ci, puis un diététiste, puis le masseur, puis tatata, mais il dit, oublie une chose. Il dit, c'est sur la glace que ça se passe. Fait qu'au niveau de sa préparation, sa concentration, il a fait du ménage là-dedans, puis là, il est concentré, puis il veut performer sur la glace, puis il est arrivé dans un marché qui adore des joueurs comme Max Domi. On l'aime, Max Domi, parce qu'il vient pour jouer. Il vient pour jouer, puis c'est ça qu'on voulait avoir, des gars qui viennent pour jouer. Pas c'est plate, là, parce que Galchenyuk est plein, il est bourré de talent, mais il travaille pas. Tu l'as vu le match comme moi l'autre soir?
Ouais,
là?
Ouais.
C'est ça. Tu sais, c'est ça, fait que tu gagneras jamais. Dans le cas de Patrick, là, je me suis dit, ouh, ça, c'est des buts qu'on laisse partir. Puis là, tu vas chercher un choix repêchage. Suzuki va être au championnat du monde junior. Ça, c'est vraiment intéressant. On verra ce qui va arriver avec lui dans les prochaines années. Puis là, t'as tort, mais tu te dis, j'espère qu'il va m'en marquer 20, mais il est parti pour en marquer 20.
Et c'est de bon augure. Honnêtement, c'est de bon augure. Moi, je suis surpris de voir que ça fonctionne à ce point-là. OK, je t'amène un nom, puis je te laisse aller. Carey Price.
Je suis content qu'il soit revenu de Carey Price qui devait être.
As-tu des doutes par moment?
J'ai pas eu des doutes, mais moi, là, c'est juste sa déclaration quand il a dit « faut que je fasse le ménage dans ma boîte à poux en haut après un match, là. » Mais, tu sais, c'est un gars qui a l'expérience. C'est un gars qui a le talent pour être bon dans le national. Puis, moi, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que à chaque fois qu'il donne un mauvais but, c'est le salaire qui revient.
Ouais.
Tu sais, le salaire, il est là. Il l'a accepté, puis il y a quelqu'un qui l'a donné.
Et il l'aurait, d'une façon ou d'une autre, il l'aurait eu partout dans la Ligue nationale, là.
Je sais pas s'il l'aurait eu partout, mais je peux te dire une chose. Moi, puis toi, Jérémy, là. Si notre agent nous aurait appelé, il nous aurait dit 8 ans, Carey, 10,5. Signes-tu ou signes pas? Ben, non,
moi, je pas
ça. Donne-moi-en donc juste deux. Là, puis,
hein? Moi, je vais signer.
On va signer ça pour 16 au lieu de 84.
Ouais, ça m'a signé, moi, je pense.
Ben, voyons donc. Tu sais, il y a un gars qui a décidé de donner, puis lui, il l'a accepté, puis c'est correct. Mais ça, je pense qu'il faut arrêter de parler d'argent dans le cas de Carey. Il faut juste qu'il redevienne le gardien de but qu'il était. Celui qui a gagné le trophée, ça va être difficile avec le club qu'il y a devant lui. Mais depuis que Shea Weber est de retour, tu sais, moi je trouve qu'il m'inspire confiance. C'est ce que j'avais pas dans sa léthargie avant le match contre Calgary, là, je le regardais, je me disais aïe aïe, tu sais, on est des anciens joueurs de hockey, tu le regardes, tu le sais qu'il est pas en confiance.
Ouais,
ouais. Fait que ça, tu travailles pas de la même manière sur la glace. Là, d'un coup, là, il y a un surnom, c'est une petite erreur, bang, l'arrêt. Comme en Arizona, il était superbe en Arizona en deuxième période.
Ouais.
Sinon, on gagne pas ce match-là. Il était correct dans le dernier match contre Vegas. Puis on a trouvé une façon de gagner du côté du Canadien, c'est parfait. Mais c'est ça qu'on veut de Carey. Fais des arrêts clés au bon moment. Peu importe le nombre de buts. On oublie l'argent. Il va gagner d'une manière ou d'une autre. Fait que faut pas parler d'argent. Faut parler de performance.
Shea Weber, es-tu surpris de la façon dont il joue depuis son retour?
Non. C'est un cheval. C'est un cheval. Moi, je reviens toujours à ce que Mario Tremblay m'a dit. Puis, Jacques Lemaire l'avait coaché avec l'équipe Canada. Là, il faisait partie des conseillers. Puis il a dit, écoute, il est pas humain. Il n'est pas humain. Écoute, c'est fort physiquement, ce gars-là. C'est sûr qu'à un certain moment, il va peut-être perdre son coup de patin, mais il est trop jeune pour le perdre encore. Puis c'est un gars qui est très, très sérieux. Puis je le regarde dans ses points de presse. Je peux te dire une chose que j'écouterais s'il me parlerait dans le vestiaire. Ça, c'est sûr.
Oui.
Tu sais, je regarde le visage là, quand ça va pas bien. Là, après le match contre Boston, je le regardais. Puis je dis, ouh, yoï, ça, c'est ce que je veux voir. Parce que lui, quand il regarde les gars dans les yeux dans le vestiaire, là, Il y en a une couple qui doivent pencher la tête et regarder ailleurs. Pourquoi qu'on ne s'est pas présenté, inacceptable, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. À son retour, il amène du leadership, puis il amène un lien de confiance entre lui et Carey, puis il rend les autres meilleurs autour de lui. Tu sais, c'est pas un Yossi ou un Subban ou un Chabot ou un Morgan Riley. C'est pas ce style-là, mais il t'amène d'autres choses que tu as besoin pour gagner dans la Ligue nationale, puis il joue de l'excellent hockey.
Écoute, on le souhaite parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a donné confiance à Carey Price, puis je pense que la défensive a besoin de ce duo-là, parce que sinon, t'as Riley, t'as Kulak, t'as Ben, t'as Mété, t'as Petrie qui, selon moi, joue du très bon hockey depuis le début de la saison. Fait que t'as besoin que le duo fonctionne et fonctionne pendant un bon bout de temps du côté du Canadien. Écoute, Benoît,
On a deux réguliers.
C'est dommage, hein, honnêtement.
On a juste deux réguliers. Les autres, là, c'est la chaise musicale. Tu préfères la chaise musicale à tous les matchs avec le reste des défenseurs. C'est pour ça que c'est exceptionnel ce que le Canadien fait présentement. C'est pour ça que Carey, il faut qu'il soit bon.
Ah, il n'y a pas le choix, Carey, d'être bon. Puis écoute, au prix qui est payé, Benoît, ben là, à un moment donné, il n'y a pas le choix d'être bon. Même ça marche. OK, Benoît, on va s'arrêter quelques instants. Puis au retour, je t'amène dans la Ligue nationale de hockey. On va se faire un survol. J'ai trois catégories. Les équipes super-héros, les équipes fantastiques et les moins que zéro. J'ai quelques noms à te suggérer. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. On est de retour aux amateurs de sport. Benoît Brunet est avec nous. On a fait le bilan, un premier bilan là, du Canadien de Montréal pour cette portion de saison. Benoît, si tu le veux bien, on va aller faire un tour dans la Ligue nationale de hockey. J'ai mis trois catégories, soit celle de super-héros, les fantastiques et les moins que zéro. Okay? Puis là, je suis désolé pour les moins que zéro, mais c'est un club. T'sais, c'est pas un individu, on peut dire que certains clubs n'arrachent. Mais super-héros. Écoute, y a-tu quelqu'un qui va arrêter le Lightning de Tampa Bay? Tu penses 28 buts, 7 défaites, 2 défaites en prolongation, 58 points. Écoute, c'est pas l'année du Lightning. Je sais pas quand ça va se passer.
Là. Ah, t'as absolument raison. Écoute, c'est ils font partie des 2-3 clubs que je veux voir jouer à chaque fois qu'ils jouent. Et tu sais, le mélange, tu regardes le mélange gardien de but, défenseur, attaque, profondeur. Le terme français, je le cherche, là, mais en anglais, ce qu'on utilise régulièrement, le grit, là.
Ouais.
T'sais, le papier sablé, il y en a qui disent ça, le papier sablé, ils l'ont aussi, là, sur leur trio de profondeur, tu sais, Paquette, Callahan. Tu sais, ils ont des gars qui sont capables de Killhorn, puis ils ont le talent en attaque. Fait que c'est vraiment un mélange incroyable, une défensive superbe. La blessure à Vasilevski, je pense qu'il a raté 14 matchs.
Exact.
Domingue a été superbe comme gardien.
A été élu superbe. Joueur de la semaine durant que Vasilevski est blessé. Moi, je pensais que c'était pour casser dans ce moment-là, puis ça n'a pas été le cas, pas du tout. Là.
Non, et chapeau. C'est ça, ça s'appelle du caractère. Peu importe ce qui est arrivé ailleurs, là, ça, c'est du caractère. T'sais, tu relances ta carrière, tu arrives là. Écoute, en Arizona, ils ne jouaient même plus, ils étaient chez eux. Ils ont dit, va-t'en chez vous, un peu comme Deslauriers. Puis là, pauvre, il se retrouve à Tampa, devient le second, fait la vette l'an passé, Ligue américaine, Ligue nationale, là, il est là. Puis il fait un job. C'est un boni. Je sais pas s'il serait capable de tenir le coup comme ça en séries éliminatoires, mais en saison, c'est ce que tu as besoin. Puis Domingue a été superbe. Puis là, Stamkos, je le regarde jouer, puis je sais pas si ça va être notre prochain Ovechkin. Là. Mais je sens qu'il y a un petit quelque chose de différent quand je le regarde jouer. Je sais pas s'il a été fouetté, là, mais il y a quelque chose.
OK, tu sens quoi? Plus de détermination?
Ouais,
plus enragé?
Oui, il a pas été bon l'an passé quand ça comptait en séries éliminatoires, Stamkos. Même Kucherov, il y a eu une petite baisse de régime quand ils se sont fait éliminer. C'est contre Washington. Puis là, je ne sais pas s'il s'est fait fouetter par le fait qu'Ovechkin a gagné la Coupe. Puis, écoute, il fait partie quand même de l'élite, là, Stamkos. Mais là, je le regarde jouer, puis il joue avec beaucoup plus de détermination. Il est plus impliqué. Il va gagner des bagarres un contre un en fond de ses territoires. Il est impliqué. Tu sais, il attend pas juste son lancer. En avantage numérique, oui, mais en 5 contre 5, je le sens un petit peu plus hargneux. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que si tu veux gagner la série, Tu sais, le papier sablé, c'est bon, mais c'est tes meilleurs joueurs, afin qu'il faut que tu fasses la différence.
Clairement, clairement. OK, dans également, autre formation dans la catégorie super-héros, les Jets de Winnipeg, 24-10-2, 50 points. Ça, c'est un... Écoute, finale de la Coupe Stanley, finale de conférence l'an passé, d'association, pardon, je vais arriver pour, je vais le dire, faire une phrase complète. Ce club-là aussi, c'est un club bâti solide, un club de l'Ouest, gros, grand, fort, rapide, talent. On a tout du côté des Jets?
Oui, je te dirais pratiquement tout. Moi, là, mon point d'interrogation, deuxième ligne au centre. Là, c'est Brian Little qui est là.
OK.
Ça, c'est mon petit point d'interrogation. Puis c'est pour ça que l'an passé, on a fait cette transaction pour amener Paul Stachny avec les Jets. Je suis pas convaincu qu'il va être capable de maintenir le rythme quand ça va compter en fin de saison, parce que c'est pas un gros bonhomme. Mais encore là, c'est une des meilleures équipes, si tu l'as dit. Écoute, ils ont tout. Ils ont du caractère, ils ont le côté physique, ils ont une bonne défensive. Même si leur buck est peut-être pas aussi solide que l'an passé, il est encore très bon. Ils n'ont pas besoin de jouer un bon match comme Tampa pour gagner. Ça, c'est vraiment incroyable pour un entraîneur. Parce que, écoute, tu joues pas un bon match, mais tu peux en marquer 4-5 pareil pour venir puis gagner. Fait que, eux, là, ils se préparent tranquillement pour les séries. Puis j'ai hâte de voir ce que Sheveldayoff va faire à la date limite des transactions. Parce que je pense qu'en défensive, ils sont assez solides. Moi, je pense qu'un deuxième joueur de centre pour venir appuyer, comme l'an passé, Scheifele, puis là, tu mets Little comme troisième joueur de centre, là, tu peux gagner une coupe.
Maintenant, Benoît, parlons des Leafs de Toronto. 25 victoires, 10 défaites, 2 défaites en prolongation, 52 points. Écoute, c'est un club bâti pour veiller tard, ça.
Oui, puis leur ligne de centre, c'est incroyable. Hein? Quand t'as Tavares, Matthews puis Kadri, c'est la meilleure ligne de centre dans la Ligue nationale pour moi. Là. Pittsburgh, il y a Malkin, t'as Brassard puis Crosby, mais beaucoup plus de profondeur du côté de Toronto, de ce côté-là. En défensive, c'est sûr que j'aimerais ça qu'ils cherchent chercher un bon vétéran qui serait capable de jouer dans le top 4 pour peut-être mettre Annecy sur le troisième duo de défenseur. Parce que là, je pense qu'ils jouent peut-être un peu trop à l'âge qu'il y a, mais il reste qu'Anderson a été super depuis le début de la saison. Ils ont du punch en attaque, ils sont bien dirigés. L'arrivée de Nylander, là, on va lui donner une couple de semaines encore, puis il joue pas du mauvais hockey, mais je suis convaincu que là, c'est à mi-janvier, là, début février, il va avoir pris le rythme de croisière, puis c'est une attaque dévastatrice. C'est un club qui fait peur. Comme je te disais un peu plus tôt, c'est un autre club, tu sais, quand même qu'il joue pas bien, il trouve le moyen de gagner. Il s'agit juste d'arriver au bon moment, au final, là, quand les séries vont commencer, de mettre tout ça en place, puis pas jouer avec le feu. Puis ça aussi, ça va être intéressant. T'sais, ils ont de l'argent, mais pour combien de temps? Pas longtemps, parce que là, Matthews, Marner, ça va coûter encore plus cher. Là, l'arrivée de Nylander qui a coûté lui aussi un petit peu plus cher. Mais il reste que pour moi, défensive, si tu ajoutes un peu de profondeur, tu peux aller très loin.
Bon, ça, c'était la catégorie super-héros. Maintenant, passons dans la catégorie fantastique. Les Sabres de Buffalo, 25 victoires, 11 défaites, 5 défaites en prolongation, 47 points. Est-ce que c'est du sérieux pour toi, les Sabres de Buffalo?
Je sais pas si c'est sérieux, mais ils s'en vont dans la bonne direction. C'est le nouveau DG l'an passé, je me suis dit, Phil Housley, il n'y a rien qui a changé. C'est quoi l'identité de ce club-là? Puis là, je me disais, écoute, Phil Housley, là, il a dirigé à Nashville. Il était pas l'entraîneur en chef, mais il sait comme tu sais, il savait comment gagner à Nashville avec la Violette à côté de lui. Puis là, je disais, il n'y a pas grand-chose qui change du côté de Buffalo. Puis en début de saison, je voyais pas non plus beaucoup de différence. Mais là, depuis à peu près un mois et demi, deux mois, c'est un club qui est transformé. Puis c'est pas compliqué, là, pour moi, là, il y en a plusieurs, là, mais l'arrivée de Dallin, c'est sûr que ça l'aide. Ristolainen, en défensive, il commence à jouer comme il aurait dû jouer dans la Ligue nationale depuis déjà, je te dirais, une année ou deux. La grosse différence, c'est Jack Eichel.
Jeff Skinner aussi, le Jeff Skinner est en feu, là.
Jeff Skinner est en feu, mais pour moi, la clé, il faut que le gars que tu payes, puis le gars que t'as repêché, là, deuxième au total, il faut qu'il t'amène à un autre niveau. Puis c'est exactement ce qu'on fait. Puis on n'a jamais été en mesure de trouver personne pour jouer avec lui. Ton point est excellent, Jérémy. Là, on va chercher Jeff Skinner. Jeff Skinner, il arrive, il est en santé, il n'est pas blessé, pas de commotion cérébrale. Puis là, lui, il s'est trouvé un joueur de centre pour l'alimenter, ce qu'il n'y avait peut-être pas en Caroline. Puis j'écoutais les propos du propriétaire là, lors de leur dernier passage à Montréal. Il dit, moi, c'est sûr que l'an prochain, je ne repêche pas un défenseur en première ronde. On n'a pas d'attaque, on ne marque pas de but. Mais t'en avais un, tu ne l'as pas le payé.
Clairement.
C'est ça.
Mais c'est un drôle de moineau, là. C'est un drôle de moineau. Puis on va revenir sur les Sabres de Buffalo, là. Mais as-tu aimé ça, toi, voir les Hurricanes de la Caroline avec le chandail des Whalers d'Hartford?
J'ai trouvé ça ordinaire.
Ben, t'imagines-tu pour le monde d'Hartford?
Ben, écoute, je trouve ça ordinaire parce que, tu sais, ça, Hartford, là, ça fait longtemps. Puis c'est même, tu sais, je sais pas. C'est loin, Hartford, là, Caroline, là. Tu sais, c'est un beau clin d'œil, puis ils ont tellement de difficultés à attirer du monde qu'ils ont voulu faire un clin d'œil à leur passé. Puis c'était correct. Tu sais, je peux vivre avec ça, là. Ça fait changement, mais il reste que pour moi, j'ai hâte de voir comment ce club-là va être dirigé pour les prochaines années, parce que je pense qu'on a un entraîneur quand même assez intelligent derrière le banc. Tu sais, Rob Brind'Amour, là, je pense que c'est un gars qui sait ce que ça prend pour gagner dans la Ligue nationale, puis je me souviens de ses propos, là, après, il a dit, ouais, ben, c'est bien beau marquer des buts, mais il faut bien jouer défensivement aussi, tu sais. Fait qu'il aime peut-être pas le style, là, d'entraîneur qu'il y a derrière le banc, puis ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire, s'il va forcer à la main de son DG et de ses entraîneurs dans les prochaines années, parce qu'il veut tout contrôler.
OK, terminons cette section-là avec les moins que zéro. Et là, j'en ai mis trois facilement. Position 7, 8 et 9 dans l'Ouest. Sont très bas dans l'Ouest, pardon. Saint-Louis, Chicago et les Kings. 32, 32, 31 points. Qu'est-ce qui arrive avec ces clubs-là?
Je dirais que ces trois clubs-là ont eu le même problème devant le filet. Crawford n'était pas là en début de saison. T'es allé chercher Cam Ward de Chicago. La difficulté à gagner. Là, Cam Ward est encore blessé. Pas que Cam Ward, mais mon ami Crawford est encore blessé. Puis là, ils ont retrouvé un peu le chemin de la victoire, mais quand tes gardiens de but ne font pas le travail, c'est très difficile de gagner quand tu as un club qui est rendu ordinaire. Là, je parle de Chicago puis de Los Angeles. Vieillissant, ces deux clubs-là vieillissant, on a sacrifié plein de choix de repêchage parce qu'on espérait gagner encore des coupes il n'y a pas si longtemps. Puis là, tu remplaces pas ta jeunesse par des joueurs qui ont le potentiel de venir pousser dans le dos de tes vétérans. Fait que là, tes vétérans ralentissent, sont gros, sont un peu plus fatigués. Puis c'est difficile de gagner des matchs. Puis quoi qui a été blessé. Fait que c'est pas compliqué. Il y a un nouveau style qui appartient à la Ligue nationale aujourd'hui où les jeunes jouent, puis ça prend de la vitesse. Puis ces clubs-là, pour moi, ont pas été hâte de faire la transition parce qu'ils ont trop sacrifié de jeunes puis de choix repêchage quand ils espèrent gagner une autre coupe cette année. Ça, c'est pas compliqué. Dans le cas de Saint-Louis, pour moi, là, c'est l'échange de Paul Stachny. On dirait que ça a acheté, je sais pas quoi, là, mais écoute, ça a envoyé un message bizarre l'an passé. Il est en chute libre, là, tu arrives à la date limite des transactions, tu échanges Paul Stachny. Là, tu fais la transaction pour aller chercher O'Reilly, tu vas amener du 109, mais c'est le message qu'on a envoyé aux joueurs l'an passé, c'est « Hey, les gars, on croit pas en vous autres, on abandonne. » Puis Jake Allen, depuis le début de la saison, c'est pas compliqué, il fait pas le travail. Il l'a jamais fait, puis il le fait pas encore. Fait que il y a une question de confiance, de comportement sur la glace. T'as beau avoir le meilleur système au monde, si ton gardien de but en donne un ou deux mauvais par match, Jérémy, pis c'est ce que j'ai vu dernièrement avec ces clubs-là, pis surtout en début de saison, tu peux pas gagner. Hey, il y a du talent à Saint-Louis, là, mais il gagne pas parce que les gardiens de but ramènent cette équipe-là à un club correct parce qu'il n'y a pas de confiance.
C'est un gros chantier. Honnêtement, les Blues de Saint-Louis, c'est un très gros chantier. Que dire des Blackhawks de Chicago? À un moment donné, il va falloir revérifier le noyau là, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que va falloir arriver en 2018 et bientôt en 2019, parce que sinon, ça va être un peu compliqué du côté des Blackhawks. Écoute, terminant, Benoît, je veux te parler des Sénateurs d'Ottawa. Là, on a vu la saga du terrain pour un nouvel amphithéâtre. Puis là, plus de place, pas de terrain, poursuite entre partenaires. Qu'est-ce qui va arriver avec les Sénateurs d'Ottawa, selon toi?
J'ai aucune idée. Ça me fait penser un peu à ce que je te disais plus tôt, la même chose avec le propriétaire des Hurricanes. Lui est nouveau, on le connaît pas trop, là. Puis on va voir comment il va s'afficher dans les prochaines années avec cette équipe-là. Mais, tu sais, Melnick, là, l'entrevue qu'il a faite avec Borowski en début de saison, qui disait qu'il va avoir 10-12 jeunes en formation, puis l'année prochaine, il va en avoir 15-16. Je pense qu'il se mêle de pas mal tout ce qui regarde l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, que ce soit le déménagement, les joueurs qui vont jouer. Tu sais, la rumeur, c'est que c'est lui qui voulait pas signer Turris, là. Il a dit, moi, il coûte trop cher. Fait qu'imagine-toi, t'échanges ce riche, tu vas chercher du chien, tu joues du bon hockey. Mais le problème, c'est pas l'échange en tant que tel. Ben oui, c'est l'échange. C'est que t'as pas de choix de première ronde cette année. Imagine-toi. T'as sacrifié un joueur de première ronde pour aller chercher du chien, t'échanges un joueur qui ressemble un peu. Je pense que du chien peut être plus productif que ton riche, mais tu l'avais dans ta cour. Fait que si vraiment tu veux avoir une philosophie, on bâtit. Ben, il va pas chercher du chêne en échangeant ton choix de première ronde. Là, pour moi, les Sénateurs ressemblent un peu plus à ce que je pensais où ils étaient pour être. Ils sont derrière dans notre division. Puis, probablement qu'après les fêtes, quand la vraie saison va commencer, ça va continuer, cette glissade-là. Parce qu'ils ont, tu sais, Anderson ne peut pas faire des meilleurs qu'à chaque soir. Puis, ils ont plein de jeunes dans la formation. Puis, ils n'ont pas beaucoup de vétérans. Mais là, tu as du chêne qui est agent libre sans restriction. Tu as Mark Stone qui est agent libre sans restriction, Jérémy. Puis, tu n'as pas de choix de première ronde. Aïe, 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 aïe. Bravo, M. Melnick.
Mais t'as des bons jeunes quand même, là. Écoute, White, c'est bon. Formanton, c'est bon. Batterson, c'est bon. Tu sais, il y a du potentiel. Ben oui, il y a du potentiel, là.
Il y a du potentiel, mais cette année, là, si tu veux continuer à progresser et à compétitionner avec les gros clubs, tu sais, comme Tampa, qui repêche, eux autres sont incroyables, là, comment est-ce qu'ils repêchent, qui amènent des agents libres, qui sont capables de performer. Mais tu regardes ce que Toronto a réussi à faire. Tu sais, tu vas chercher Tavares, tu repêches Matthews, puis t'avais déjà Kadri. ta ligne de centre, c'est réglé. Fait qu'imagine-toi que tous les bons jeunes, Jérémy, que tu me mentionnes là, parce que c'est vrai qu'un jour, ils vont peut-être s'en aller dans la bonne direction. Je suis pas convaincu que le propriétaire, mais imagine-toi si tu avais eu c'est Jack Hughes qui s'appelle, le jeune, là?
Oui.
Puis un Finlandais qui est supposé être très bon. Là. Si tu as un choix de première ronde cette année, puis tu gagnes la loterie, là, tu sais, tu viens peut-être de transformer ton club les 10 prochaines années. Parce que, tu sais, moi, les gars, ils disent Jack Hughes va être entre McDavid puis Matthews. Ben, on le verra quand on le verra jouer, mais s'il est juste similaire à ces gars-là ou s'il ressemble à un Jack Eichel, tu changes ton club les 10 prochaines années parce que là, tu viens de trouver un joueur de concession.
Clairement. Des fois, hein, quand tu payes trop cher à court terme, tu payes le prix à moyen terme. Benoît, écoute, on a assez parlé. Je te laisse aller manger avec ta famille pour ce souper de Noël. Je te remercie énormément du temps que tu as pris pour nous. Puis surtout, je te souhaite un joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Merci beaucoup, Benoît.
Moi aussi. Je sens qu'on va se reparler dans le temps des fêtes de toute façon. Hey, on n'a pas parlé de Washington la prochaine fois.
Hey, prochaine fois, on se parle de Washington. Merci, Benoît.
Merci, bye-bye.